Voilà. Bon, alors, très très bonne semaine et surtout, bien sûr, comme d'habitude, tenez bon.
Radio Libertaire 89,4 MHz, dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Nous sommes ensemble pour une heure et demie, c'est le temps qu'il faut à une hirondelle pour parcourir 60 km, c'est-à-dire la distance Paris-Fontainebleau. C'est le temps pour qu'un tunnelier du métro progresse de 70 cm. C'est le temps que 11 personnes soient portées disparues en France, dont 2 mineurs, et pour certaines quand même retrouvées. C'est le temps, 90 minutes, qu'il y ait 18 accidents de travail dans le cadre du BTP. C'est le temps pour que 51 chiens ou chats soient abandonnés, notamment sur la route des vacances. Et c'est le temps pour que les exécuteurs des basses œuvres des mollahs fous d'odieux appliquent 37 coups de fouet à toute personne qui chante librement, ce qui normalement devrait être un pléonasme. De Soutsène, magazine de créatures radiophoniques, bonjour. Et évidemment, quelques petits... Je me souviens de la liste des camps romains sur la page de garde d'Astérix en Corse. Non, Astérix en Corse, pour celui-là, Goscinny avait remplacé les habituels Baba au Rhum, Petit Bonhomme, Laudanum et Aquarium par Tartopom, Maria Pacom, Oncle Tom, Régie Autonome, Capharnaüm, Jolimum, Chewingum, Welcome, Shalom et autres sémonomes. Je me souviens de la fois où, échangeant des SMS avec ma collègue de physique pour caler un rendez-vous avec un parent d'élève pour un cas problématique, j'avais reçu en pleine conversation un texto de ma femme d'une très grande tendresse, persuadée, ne lisant pas comme un con les personnes envoyant le message, persuadée un court instant que ce « je t'adore, vivement qu'on dorme ensemble ce soir » apparu sur mon écran faisait suite à la discussion professionnelle, j'étais demeuré perplexe et gêné, puis j'avais compris en recevant quand même. Ah, et en plus, je le soupçonne d'avoir triché au devoir de vendredi, et là, j'ai repris le fil de mon échange professionnel. Je me souviens que Sylvie avait déposé un dossier pour changer de nom à l'état civil. Son nom de jeune fille, c'était le nom du vieux porc qui avait abusé d'elle de 12 à 14 ans. Et quand on lui avait suggéré de prendre alors le nom de naissance de sa mère, elle avait refusé d'endosser le patronyme de celle qui savait, mais qui s'était tue. Je me souviens que pour l'état des lieux de fin de bail, de colocation à Rennes, Yann, Alex et Sonia avaient réussi à embobiner le type de l'agence et à lui faire visiter le T3 de l'étage au-dessous, là où la peinture était encore bien blanche et les portes de placard non dégondées. Je me souviens que lorsque j'allais certains dimanches assurer la régie de l'émission de Jacques Roussel sur Fréquence Paris Pluriel en l'absence de sa technicienne habituelle, j'arrivais tout juste 2 minutes avant 14h, C'était dans un coin paumé à l'époque, à la plaine Saint-Denis, avant qu'on ne prolonge la ligne 14. Jacques courait partout, tendu comme le string d'une Vénus Callipyge, agitant ses grands cahiers remplis des textes de présentation. Je me souviens que dans le minuscule ancien studio de la radio, Rubert, là où il y avait un émetteur qui ronflait dans un coin de la pièce derrière un rideau, nous avions en guise de climatisation des volets en métal et un ventilateur qui s'arrêtait automatiquement par un bricolage à la Julien dès qu'on ouvrait les micros. En fait, c'était un petit interrupteur en début de course des potentiomètres. Quand on partait dans des tranches parlées de 20 minutes, le technicien titillait l'interrupteur avec un stylo et tant pis pour le vroum à l'antenne. Je me souviens que Maurice avait tenté d'aller à l'enterrement du pasteur Doucet car il voulait à tout prix être fiché par les renseignements généraux pour faire bien. Sa mère l'en avait dissuadé. Je me souviens de « La raison du plus fort est toujours la meilleure » et de « Si ce n'est toi, c'est donc ton frère ». Je me souviens que Bernard avait volé la pipe de son père pour faire le ventriloque à la fête de l'école. Je me souviens que, dans la salle des CM1 et des CM2, les tables étaient équipées de glissières en métal qui permettaient de fermer les encriers, ce qui n'empêchait d'ailleurs pas mon voisin d'y mettre des boulettes de papier buvard et même parfois une craie, initialement blanche. Je me souviens que Claude avait acheté un pantalon en cuir d'occasion aux Puces de Saint-Ouen sans l'essayer, ainsi que deux disques de Trust d'occasion aussi. Le pantalon avait trois tailles de trop, et dans la poche d'un des albums, il y avait un vinyle de Verschuren. Je me souviens que Claudine exigeait de son petit frère qu'il lui donne ses carambars en menaçant d'électrocuter son hamster avec la pile 4,5 V de sa lampe de poche.
Oh,
Radio Libertaire 89,4 MHz. Et voilà, c'est une chanson de Parashtu Hamadi, c'est-à-dire que c'est parce qu'elle chante, tout simplement, que l'État iranien, les mollahs, les fous d'odieux, l'ont condamnée à 74 coups de fouet, ainsi que pour ses musiciens. Et c'est 74 chacun, même pas à partager. Comme quoi, la musique, c'est peut-être finalement dangereux dans certains pays. Dessous de scène, aujourd'hui, c'est théâtre. Et face au micro du théâtre, eh bien, c'est Anne. Ici, les studios. À vous, les studios.
Merci, Nicolas. Oui, c'est Anne. Bon, notre amie Evelyne est en vadrouille, j'allais dire. Enfin, elle est un petit peu en repos. Et je la salue, ainsi que Jean-Marie. Ils doivent pas avoir chaud là-bas. Et je salue aussi Fabien et ses petits minets qui sont peut-être à poil, mais qui doivent aussi souffrir du chaud. Ça, les animaux aussi souffrent du chaud comme les humains, ça c'est sûr. Alors j'ai le plaisir d'accueillir, ça c'est très gentil, Isabelle Andréani qui vient nous parler d'une femme d'une grande culture, Madeleine Béjart, le grand amour de Molière, et qu'elle reprend pour le Festival d'Avignon cette année. Bonjour Isabelle.
Bonjour Anne, merci de m'accueillir.
Ben c'est gentil d'être venu parce que bon. Donc alors c'est vous qui avez posé une bombe dans le RER pour pas que ça vienne. C'est ça, pas ça.
Il y avait...
ça devait être un malaise.
Ah oui, il y avait un malaise. Ça, mais je pense que tout le monde est en malaise. Mais c'est bien, moi je trouve, parce que ça nous entraîne pour Avignon, pour le festival qui va débuter donc dans un jour, dans une semaine,
une semaine
exactement, jour pour jour. Et on a toujours plaisir à retrouver cette ville. Oui, il fait chaud, mais finalement ce qu'on vit à Paris. C'est étouffant, il y a pas d'air là-bas à Avignon, il y a de l'air, il y a voilà, on passe d'une salle à l'autre qui est climatisée.
Voilà,
je pense que
ça,
le
oui.
plaisir d'aller à Avignon, c'est ça aussi. Mm-hmm. Bien sûr, il y a les files d'attente, mais pour le plaisir du théâtre, et ça, c'est toujours un bonheur infini d'aller au Festival d'Avignon.
C'est sûr, il y a toute une ambiance et bon, j'irai l'année prochaine. Mmh. Cette année, j'ai pas pu, mais bon, l'année prochaine, sans problème. Alors, Isabelle, on va parler de Madeleine Béjart, de la pièce de Pierre-Olivier Scotto, dont vous avez déjà joué une pièce qui s'appelait
Deux
pièces.
Ah, oui, Xavier Lemaire et Pierre-Olivier Scotto ont déjà collaboré ensemble sur Là-bas de l'autre côté de l'eau,
voilà.
Qui s'était joué en tournée, créé à Rueil-Malmaison et ensuite repris au théâtre La Bruyère.
La Bruyère, oui.
Donc ça c'était 2020-2023, sur la guerre d'Algérie, sur les événements d'Algérie. Donc voilà, c'était une épopée avec 12 acteurs et des dizaines et des dizaines de personnages. Xavier Lemaire avait très envie d'écrire sur la guerre d'Algérie, comme il avait écrit sur la guerre 14-18, évidemment avec les coquelicots. Non, avec les coquelicots des tranchées.
Que j'avais beaucoup aimé aussi.
Il avait eu Molière en 2015.
Oui, je m'en souviens.
Avec les coquelicots des tranchées, il avait coécrit avec Pierrot Rentrée 42, Bienvenue les enfants.
C'était bien aussi.
Là,
ça,
c'était sur. On était en 42, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, le plaisir de collaborer avec Pierrot, qui a l'écriture foisonnante. Xavier avait envie de parler de Madeleine Béjart, de cette femme, rendre hommage au théâtre, à toutes ces femmes de l'ombre. Et avait envie de retravailler avec Pierrot pour leur amour commun du théâtre, de la passion et à la fois du respect du public et des auteurs. Donc voilà. Il avait envie de parler de Molière d'une autre façon aussi, en parlant exclusivement de cette femme qui est finalement citée partout, qui est tout le temps nommée, mais dont on connaît très peu la trajectoire, l'importance et la vie auprès de Molière. En tout cas, on sait qu'elle a été vraiment tout le temps à ses côtés, depuis le début jusqu'à la fin.
Elle a tout accepté de lui, de toute façon.
Alors, accepté, je ne sais pas si elle a tout accepté. Je pense qu'il n'était pas marié.
Non.
Donc, je pense qu'elle a été... à ses côtés, elle admirait cet homme, comme dans la pièce, elle était amoureuse de lui. Mmh. Elle était admirative de son talent, de son voilà, de sa faconde et puis de son esprit de troupe. Et je pense qu'elle a contribué énormément à tout ça. Maintenant, est-ce qu'elle a tout accepté?
Elle n'était pas soumise, on peut pas dire. C'était pas.
Elle n'était pas soumise. Je pense qu'elle était libre dans ses choix, même avant de rencontrer Molière, dans dans le plaisir qu'elle avait des lettres, les rencontres qu'elle a faites, Georges Scudéry. Heureusement, on a des témoignages de l'époque, des gens qui disaient d'elle qu'elle était non seulement une excellente comédienne, mais aussi une femme lettrée, une femme avec qui on avait plaisir à parler, une femme qui était belle, qui savait tout faire. Hein, donc, elle a un portrait. Mais c'est pas une seule personne qui l'a écrit. C'est, voilà, Georges de Scudéry, Tristan l'Hermite. Enfin, voilà, il y en a beaucoup qui ont témoigné sur cette femme. Et Corneille, enfin, donc je pense que elle avait je pense pas que c'était du tout une femme soumise. Je pense que si elle est restée jusqu'au bout auprès de Molière, c'est l'amour, comme le dit la pièce très justement. Oui. Et je pense que le regard de Pierrot et le regard aussi de Xavier Lemaire qui l'a mis en scène et qui avait très envie de partager cette vie, voilà, il y avait un constat évident. On reste pas auprès d'un homme toute sa vie, une grosse partie de sa vie, 30 ans, sans arrêt.
Donc vous êtes bien documenté sur le personnage. Oui, avant de...
documenté avec évidemment, il y a beaucoup de livres qui sont sur Molière, il y a beaucoup de livres qui sont sur cette époque, il n'y en a pas spécifiquement sur cette femme. Et puis évidemment il y a les historiens qui écrivent des choses divergentes. Il y a forcément des contradictions, des fois des preuves, mais je pense qu'en recoupant beaucoup de témoignages et beaucoup de documents annexes, Pierre-Olivier a retracé cette histoire qui est en fait qui sont les derniers jours de Madeleine Béjart.
Oui, parce
que les 7 derniers jours.
On peut dire qu'il y a un effeuillage de costumes pendant la pièce, mais c'est donc justement pour arriver à la personne
au dénouement avant de partir total, dans l'autre monde.
Dans l'autre monde, voilà.
Oui, mais ce qui et quelque part elle s'effeuille, mais surtout elle raconte, elle retrace son parcours, sa vie, ses émotions, ses rencontres. Oui. Ses écritures, ses amours, et puis surtout sa grande rencontre de sa vie, Jean-Baptiste Poquelin, Molière, qu'elle a porté au nu. Mais surtout, je trouve que ce qui est formidable dans cette fable, car c'est écrit comme ça, c'est une fable, de retracer les 7 derniers jours, c'est une façon de revoir un peu sa vie au moment où elle se sent extrêmement faible. Oui. Elle sent qu'elle va partir, elle le devine, et puis on est à cette époque, au XVIIe siècle, quand on était malade, il y avait quand même malheureusement beaucoup de chances que de finir très vite. Oui. Comme les enfants qui naissaient...
Les enfants de Molière, il y a qu'une fille qui est...
Oui, Esprit Madeleine, voilà, qu'il a eu ensuite de son mariage
avec Armande. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une pièce que j'aime beaucoup de Giovanni Macchia sur Esprit Madeleine. Ça s'appelle Le silence de Molière.
D'accord.
Et c'est une... Il a imaginé le parcours, la fin de vie aussi de la fille de Molière, qui raconte pourquoi Molière avait écrit Toi non dans le Malade imaginaire. C'était pour elle, pour qu'elle puisse jouer la petite Louison. C'est un très beau texte aussi,
mais c'est ça qui est beau dans cette forme là c'est de retracer un parcours de vie et de se dire mais waouh, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a traversé, et surtout l'importance de sa présence auprès de Molière. On parle de lui et en ce moment, on en parle de plus en plus. Alors, il a toujours été extrêmement monté. C'est la figure de proue du théâtre français, évidemment. Ouais. Mais quand même, je trouve qu'on parle de lui d'une façon détournée. On parle de lui d'une façon à travers telle ou telle pièce, telle ou telle évocation. Et c'est vrai que de prendre par le biais du regard de l'amour... et en même temps du regard critique, parce qu'elle est critique aussi,
oui,
hein,
sûr,
envers cet homme qu'elle admire, mais aussi qu'elle regarde, voilà, évidemment, avec toutes ses qualités, ses défauts. C'est assez agréable, finalement, de voir un homme qu'on connaît exemplaire, et puis finalement, qui est un être humain.
Bien sûr, bien sûr. Et pour une comédienne, qu'est-ce que ça fait, l'effet miroir, de jouer le rôle d'une comédienne?
Alors déjà, de jouer Madeleine Béjart, oui. Moi j'ai été, j'étais partagée, j'étais à la fois waouh, très très excitée, et puis j'ai eu très mal au ventre en me disant mon Dieu, mais quelle responsabilité, parce qu'elle incarne pour moi vraiment l'image de la comédienne par excellence, comédienne de troupe, comédienne qui savait tout faire, la tragédie, la comédie,
la danse,
le chant, et puis surtout elle incarnait une personne, je pense, agréable à vivre, à écouter, puisqu'elle a donné l'envie de qu'on écrive des rôles pour elle. Donc, du coup, c'était une responsabilité, et puis un honneur, et puis voilà. De toute façon, chaque rôle qui arrive, qu'on me propose, moi, me donne les frissons à chaque fois, parce que chaque rôle est important. Mais bon, bien évidemment, celui-là.
Oui, en plus, parce que celui de Fritz Saber, c'était un personnage aussi qui a existé, là, la
complètement.
Femme de Fritz Saber.
Et c'est bien de faire le parallèle, parce que qui es-tu, Fritz Haber, donc de Claude Cohen, qu'on avait joué avec Xavier Lemaire,
qui
l'avait mis en scène à Avignon, au Théâtre de la Luna. Il avait eu le prix d'interprétation, d'ailleurs, cette année-là. Peu importe, je crois, 2015, je crois.
Oui,
oh, je ne sais plus, je ne sais même plus. Mais en tous les cas, il jouait Fritz Haber, je jouais donc Clara Immervar, sa femme. Et encore un personnage, une personne qui a été complètement oubliée de l'histoire, qui était une grande scientifique, qui a été
écrasée
par la notoriété de son mari. Elle a fait beaucoup pour lui, elle a fait les mêmes études que lui. Elle a eu un enfant, elle a été très malade à la suite de ça, elle est restée entre guillemets à la maison tout en continuant les traductions pour Fritz Haber, et voilà, donc on se retrouve face à une femme inconnue, et alors qu'elle était dans l'ombre de cet homme qui a pu faire ses découvertes.
Ses découvertes, les
travailler.
Le gaz acide ou le gaz...
Exactement, le fameux gaz, le premier qui a été lancé à Ypres en 1915.
Ouais, donc elle n'était pas d'accord du tout là-dessus.
Non, elle n'était pas d'accord, mais à la base c'était un gaz qui devait c'était une sorte d'insecticide, en fait, qui devait nettoyer les cales de bateaux, donc ils ont fait des essais pour lancer ce gaz sur les ennemis, et bien sûr elle n'était pas d'accord. donc là on est à l'inverse, on est vraiment dans un couple qui se déchirait sur scène, et en tous les cas dans la vie, pareil, on n'avait pas le témoignage de cette dernière discussion, de ce dernier repas où à la fin elle s'est suicidée avec Madeleine Béjart et Molière, on est à l'inverse. Jusqu'au bout, il était très en demande auprès de Madeleine. Et est-ce que beaucoup disent dans les écritures que c'est un hasard? Moi, je n'y crois pas. Je pense que c'est un symbole très fort. Il est mort jour pour jour, un an après elle, le même jour, le 17 février 1673. Elle, un an pile poil. Elle était malade, très malade, et puis voilà, elle s'est éteinte. Il s'est éteint exactement un an jour pour jour. Je pense qu'il y avait une fusion entre ces deux êtres.
Il y a aussi une pièce d'André Roussin, je crois, qui s'appelle Jean-Baptiste le Bien-Aimé. Il y a aussi le personnage de Madeleine.
Alors, le personnage de Madeleine, il arrive partout. Il est dans beaucoup de pièces.
Forcément,
qui traite de Molière, qui traite de près ou de loin, et encore heureux. Mais sur sa vie totale, c'est plus rare. Et en tous les cas, le fait de la mettre en avant, il était temps.
Et c'est très bien fait.
Merci à Pierre-Olivier Scotto, merci à Xavier Lemaire d'avoir...
Une très belle mise en scène. Très intéressante.
Une direction d'acteur toujours tellement précise. Xavier a l'art de doser les émotions, de donner des ruptures. C'est vraiment un slalom d'une descente de piste rouge. Et on sait où on doit aller aussi, où on sait là où il ne faut pas dépasser, ne pas sortir,
il
ne pas faire
d'hors-piste. Il doit y avoir des désaccords peut-être dans le personnage. Vous voulez le jouer de telle façon, lui ne veut pas.
Alors là, ce qui est génial, c'est de travailler avec Xavier depuis maintenant 23 ans. J'ai travaillé sur des personnages tellement différents. Ce qui est formidable, c'est que on gagne beaucoup de temps parce qu'on se comprend très très vite. D'une part, il sait comme je fonctionne, je sais comme il fonctionne. Il commence une phrase, je la finis. C'est assez. On est assez d'accord dès le début, en fait, du parcours de la pièce.
Oui.
Alors, quand il y a d'autres acteurs, c'est différent, parce que bien évidemment, il y a l'alchimie
de la troupe, du groupe même.
Il met beaucoup de temps à trouver l'équipe, et puis ensuite, les affinités se font, et puis il construit la pièce, la mise en scène avec cette troupe. Mais franchement, il a un regard sur l'acteur. Il aime les acteurs, les actrices.
Ça se voit, oui.
Et il va pas les piéger sur quelque chose. Il va au contraire les amener à. Alors des fois, il y a des comédiens qui disent oh, mais je vais pas y arriver. Et on se rend compte que avec le travail et la confiance, ils vont dans des endroits qu'ils n'avaient pas explorés. Et ça, c'est le plaisir de Xavier. Et j'en suis vraiment l'exemple flagrant, parce que il m'a proposé des rôles que j'aurais pas imaginé du tout. Et j'ai toujours tellement de plaisir.
Tellement de plaisir.
Alors le bouquet, là, c'est Madeleine Béjart, parce que c'est un cadeau.
Alors, je l'avais vu, moi, au Théâtre des Gémeaux. C'est l'année dernière, je crois.
Exactement. Ouais. J'ai eu la chance de faire le premier festival Sens, seul en scène du Théâtre des Gémeaux dans la grande salle. Enfin, dans la grande salle, dans cette salle du Théâtre des Gémeaux parisien.
Oui.
Et juste avant Avignon et juste avant le Mois Molière.
Ah oui, en plus.
J'ai eu la chance de le jouer deux fois. Mais sous la pluie, la première fois... on était chez Bartabas sous une pluie battante, mais j'avais l'impression de lutter contre les éléments. Mais en même temps, le public a adoré. Et le lendemain, j'étais dans les grandes écuries, devant 600 personnes conquises. Et vraiment, c'était très chouette.
Est-ce qu'il y a une bande-annonce, s'il te plaît, Nicolas ? Bon, on va écouter la bande-annonce.
Génial.
Je vais prendre un peu l'air.
Madame, vous êtes un soleil, un trésor, une nymphe.
Arrête.
Tu es l'illustre Madeleine Béjart, que le public acclame, qui deviendra une grande tragédienne du siècle, voire une grande tragédienne de tous les siècles à venir. Je vous le promets, je vais me faire épouser par cet homme qui va m'écrire des rôles magnifiques. Tu ne peux pas épouser cet homme qui a été mon amour, mon amant. Et qui est encore mon compagnon de route. Je ferai ce qu'il me plaira, ma mère.
Comme on l'entend dans la bande-annonce, oui. Il y a énormément de personnages, énormément d'évocation des personnes de sa famille qu'elle croise. Il y a Molière, bien sûr, on entend Armande Béjart, il y a une sublime scène entre la mère et la fille. Déchire l'homme qu'elles aiment.
Encore, je suis pas sûre de l'amour d'Armande, mais bon. Mais bon, pourquoi pas, peut-être que si, après tout.
C'est marrant parce que je joue Madeleine et donc Armande étant ma fille, j'ai pas envie ni de la juger, ni de savoir si elle aime ou pas. Je pense que le parcours d'Armande a dû être difficile, pas reconnu par son vrai père, entre guillemets, mise en pension. Après, elle a fait partie de la troupe, elle est tombée amoureuse ou pas de cet homme. En tous les cas, je ne sais pas, j'ai pas tellement envie de la juger. Je crois que comme une mère, elle accepte avec beaucoup de tristesse, Elle le dit dans la pièce, dans l'écriture de Pierrot, qu'elle aurait aimé vivre cette consécration, se marier avec Molière. Est-ce que, oui, pourquoi pas, mais en tout cas, c'est Armande qui se marie, et puis finalement, voilà, elle accepte puisqu'elle reste. Elle reste auprès d'eux et elle continue à être là.
À jouer, et à participer à l'esprit de troupe, on
exactement,
va dire, tout ça.
Exactement.
Alors au début, je vous entends rire, et ça m'a fait penser à mon cours de théâtre quand j'étais plus jeune. Et le problème, c'était les fameux rires. Alors notre professeur nous disait, par exemple, de l'alleu sur scène, les rires. Oh là là, parce qu'il fallait rire exprès, c'est pas évident de rire.
Non, mais je crois que surtout, c'est tout le... Enfin, il me semble que c'est tout le contraire. Quand je cherche sur telle ou telle phrase dans une autre pièce, si j'avais à éclater de rire, ben je me servirais de la situation, je m'appuierais sur quelque chose. Oui. Parce que, bien sûr, il y a deux choses. Il faut avoir la technique pour tenir la route, et notamment dans le rôle dont on entend un tout petit bout là, de Zerbinette, qui rit sur plusieurs pages, tout en parlant.
Oui.
Donc il faut à la fois une technique, mais il faut, je crois, s'appuyer sur quelque chose, un imaginaire. Sinon, on est en roue libre, ça paraît faux. C'est comme les pleurs, si c'est pleurer pour pleurer, les gens, les spectateurs ne seront pas émus et ne pleureront pas. Il faut, à mon avis, habiter les rires comme on habite les pleurs, les charger de l'émotion, parce que sinon...
Et je crois que dans la troupe de Molière, il y avait une comédienne qui avait toujours le boyau de la rigolade, donc qui jouait Nicole dans Le Bourgeois Gentilhomme, elle se marre tout le temps. C'est vrai que là, c'était peut-être, elle a peut-être joué Zerbinette d'ailleurs aussi.
Madeleine aussi.
Donc il y avait cette technique du rire. Il y a une technique théâtrale. Hein, personne ne peut pas le faire comme ça, c'est sûr.
Surtout en parlant, c'est pas le tout de rire.
C'est pas évident du tout. Non, mais c'est une très belle pièce. Alors, que vous allez jouer donc à Avignon, j'allais dire c'est à l'arrache-cœur.
Non, toujours à la Luna. Luna. Ça fait depuis
des
années qu'on est à la Luna, salle 1 le matin. Voilà. Donc là, c'est 11h35 dans cette grande salle 1 de la Luna. C'est un lieu qu'on adore, c'est un lieu à la fois de création, de complicité familiale. On y est bien accueillis à tout point de vue.
Tout à fait,
en tant que spectateur, mais en tant que compagnon. En tant que technique, c'est vraiment un bonheur, toute l'équipe, que ce soit Sylvio Martel, Dominique Tézio, toute l'équipe technique était extraordinaire, vraiment. Et l'accueil Stéphane Baquet, enfin on est dans l'univers du théâtre
familial,
et c'est à la fois proche du public, on n'est vraiment pas... On est bien et c'est pour ça qu'on y reste depuis toutes ces années. Et puis toujours, soit au début de matinée, soit fin de matinée, avec grand plaisir.
Ah ben, je crois que je vous avais vu, c'était « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée ».
Exactement, 2008, on avait démarré à 11h.
11h11.
Exactement.
Ça m'avait bien fait rigoler. Alors ça, il faut le faire.
Ça, c'était notre... Notre grand Stéphane Martel, qui avait eu l'idée de garder ce 11h11 et qui avait dit on va garder pour l'invasion des Huns. Ça avait fait beaucoup rire Xavier Lemaire sur cette envie de jouer le matin. À l'époque, c'était pas forcément le théâtre classique ou le théâtre contemporain tout public. Et finalement, tout le monde est venu le matin. C'est très, très agréable pour le public, pour nous.
Franchement, au contraire, tout le monde est en forme, on va dire. sûr. Et puis la Luna, j'avais vu pas mal de choses de chez eux. C'est un beau théâtre, c'est vrai, j'aime bien aussi. Alors, est-ce que Madeleine était une femme de pouvoir, d'après vous?
Est-ce que c'était une femme de pouvoir? Si elle avait voulu pouvoir, elle aurait... signé ses pièces de théâtre. Est-ce qu'elle n'aurait pas demandé d'être plus mis en avant? Non, je pense qu'elle laissait Molière vraiment en avant.
Elle mettait en scène, mais je veux dire, l'accompagnait pour la mise en scène aussi.
Notamment sur la deuxième partie de la troupe. C'est vrai que alors femme de pouvoir, est-ce que on peut le dire? Je pense qu'elle aimait la troupe. Elle venait de la troupe des Béjart. Elle aimait s'entourer et de la famille et des comédiens fidèles. Et elle dirigeait de main de maître les comptes. Beaucoup disent qu'elle était très riche à la fin de sa vie. Donc elle savait se débrouiller. Mais voilà, est-ce qu'elle voulait le pouvoir?
Peut-être pas comme non, pas à ce point-là, non.
Pas à ce point-là, non, c'est sûr, oui. À revendiquer telle ou telle.
Mais c'est vrai d'ailleurs qu'on parle un peu moins de ses parents, les Béjart, et de ses frères aussi qui jouaient aussi.
Oui, tout à fait.
Elle tout était à tellement fait. À soleil elle-même. Voilà, c'est ça aussi.
C'est ce que disait tout le monde. Et c'est vrai que l'envie de collaborer sur cet hommage au théâtre, c'est vrai que Pierre-Olivier Scotto et Xavier avaient très envie de mettre en avant cette figure de proue.
Qui n'avait, c'est pas la même Madeleine que la Mademoiselle Molière de Gérard Savoisien.
Non.
C'est aussi une belle figure, mais enfin, je veux dire, c'est pas la même chose.
Non, c'est juste.
Elle est plus, j'allais dire, précieuse dans le bon sens du terme, je dirais, votre Madeleine. Elle est cultivée, elle est drôle, elle est très sensuelle, elle est marrante. Enfin,
c'est surtout tout un parcours de vie qui se développe devant nous. C'est tout le plaisir de voir une femme extrêmement vivante, très
actuelle,
amoureuse du théâtre, amoureuse des lettres, amoureuse. Elle était très cultivée, elle était ça c'est important, ça, de ne pas l'oublier. Donc elle a côtoyé énormément par exemple Madame de Scudéry, la sœur de Georges de Scudéry. Elle a fait partie des salons littéraires mondains, ça lui a permis d'asseoir ses qualités littéraires, les précieuses ridicules. Il est évident qu'elle a complètement lancé l'idée, insufflé les vers. Elle a donné envie à Molière d'écrire sur les salons littéraires. Puisqu'elle les connaissait bien. Elle les connaissait bien pour les avoir fréquentés, pour avoir s'être rendu compte que les femmes écrivaient beaucoup et avaient des choses à dire aussi.
Bien sûr, elle n'était pas sotte, parce qu'on prend toujours mal les femmes savantes ou les précieuses ridicules.
Non.
Au contraire, c'est une belle gloire pour ces dames, justement. Et qu'est-ce que je voulais dire sur Molière? Ah oui, alors, Molière-Corneille. Est-ce que c'est Corneille, Papy Corneille, qui a écrit les...
Ça, c'est vraiment un débat sans fin et qui sera toujours là, puisqu'il n'y a aucune preuve pour aller dans un sens ou dans l'autre. Il y a quand même une évidence, c'est que, et on le voit à toutes les époques, quand un auteur écrit un certain style, d'autres arrivent... soit en l'écoutant, soit parce que c'est dans l'air du temps, écrivent aussi dans le même style. La plume de Corneille que Molière et Madeleine Béjart ont beaucoup joué, il est évident que ça se ressent dans l'écriture des pièces de Molière. Il y en a qui sont catégoriques. Moi, je pense qu'il ne faut pas être catégorique. Preuve. Il y a des similitudes. Et alors, il y a des similitudes dans le théâtre contemporain. Moi, je peux vous en donner 15, 20 exemples qui montrent à quel point tel auteur s'est laissé influencer par tel auteur. Et tant mieux. Et d'ailleurs, il le dit même dans la pièce, Pierrot, c'est que Terence, Plaute, tous ces auteurs.
On a pioché dedans, bien sûr.
Bien Bien sûr.
Naturellement.
Bien sûr.
Un petit lully peut-être pour égayer là.
C'est ce que j'étais en train de chercher, mais en me demandant qu'est-ce que vous vouliez.
Le bourgeois gentilhomme.
Allez,
le bourgeois.
On va aller chercher ça.
Ça nous met dans le bain.
Voilà, exactement.
Le plaisir de cette époque.
Avec le risque classique pour ça sur Radio Libertaire, c'est que on a. Ah ben, est-ce qu'on risque d'avoir une pub avant que le morceau ne démarre? Non, il me semble.
Nicolas aussi.
Ça fait du bien, hein. On replonge tout de suite dans l'époque.
Ah oui, c'est bien, c'est très très bien. On est grand siècle là aujourd'hui.
Voilà, on a envie de mettre des collants, des talons, des grandes jupes et de danser.
De danser, oui, à la fraîche.
Oui.
Aujourd'hui, bon Dieu. Et pour dans la troupe de Molière, il y avait la fameuse marquise.
Oui, marquise du Parc.
Marquise du Parc, oui. Qui elle aussi était une femme très intelligente, qui est préférait partir vers Racine, alors plutôt.
Alors, dans la pièce, Madeleine la taxe de idiote, comme oui. Catherine de Brie, mais bon, c'est oui. La période où Molière a de temps en temps des infidélités.
Et ben voilà.
Et je dois dire que, voilà, c'est facile de critiquer les femmes qui séduisent l'homme qu'on aime et de les traiter d'idiotes. J'avoue que je pense que c'était voilà une femme qui avait envie de séduire, qui était charmante à un moment où peut-être Madeleine ne l'était plus tellement. Enfin bon, en tous les cas, Il y avait des femmes dans la troupe, beaucoup de comédiennes que Molière a eu plaisir à charmer, à séduire. Est-ce que c'est le microcosme de la troupe qui fait ça? Je ne sais pas,
Sûr, à l'époque, ouais. Oui, naturellement. Il n'y avait pas de MeToo à l'époque, mais enfin bon.
En tous les cas, elle acceptait, oui et non, mais en tous les cas, elle subissait et ça ne devait pas être toujours facile. Mais non.
Par contre, on pourrait peut-être parler des mises en scène des pièces de Molière. Est-ce que le revisiter, ça vous agace ou pas? Ça dépend comment c'est fait, peut-être.
Bien évidemment, je pense que quand c'est fait d'une manière intelligente, que le parti pris tient la route et surtout ne dénature pas le texte, on se rend compte vraiment de la magie de l'écriture de Molière, parce que ça tient la route, que quelles que soient les mises en scène. Quand c'est très coupé, quand c'est malmené, chamboulé. Quand c'est dénaturé et quand surtout c'est de l'à peu près, voilà, du coup le texte ne résonne pas pareil. Mais c'est valable même quand je joue Flaubert. Si je change un mot pour un autre, ça n'a pas la même force. Si l'auteur a écrit telle phrase par rapport à telle émotion, à tel moment dans le récit, c'est pas par hasard. Sans faire de la description de littéraire, il y a quand même une évidence. Donc, quand un personnage dit telle chose à tel moment de cette façon-là, c'est pas de l'à peu près. Quand c'est de l'à peu près, moi, ça m'agace. Ça me fatigue. Et d'ailleurs, ça passe moins bien. Ça passe. Il y a des pièces qui fonctionnent. Oui, il y en a quand même qui fonctionnent. Mais moi, je préfère quand l'auteur est respecté, mais qu'il soit contemporain ou qu'il soit Molière, Corneille et ou Racine,
voilà,
ou même Duringer. Au Duro, enfin voilà, j'aime que les auteurs soient au moins respectés. Si c'est coupé, c'est avec intelligence et pas retranscrit, quoi.
Moi, j'avais vu, je me suis dit, bon, le Bourgeois Gentilhomme, on ne peut pas louper la mise en scène, c'est pas possible, Bourgeois Gentilhomme. Eh bien, si, j'avais vu un jour une mise en scène, je me dis, mais c'est pas vrai, comment faire un truc pareil? Enfin, ça m'avait ennuyé, pas choqué, mais enfin, je me suis dit, c'est pas la peine. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on utilise quand même beaucoup, le théâtre contemporain, oui, mais le théâtre classique est rudement mis à l'épreuve aussi.
Bien sûr.
On le tortille, on le bien manipule sûr. Comme, bien on sûr. Peut, comme on veut.
Bien sûr. Et c'est tout le problème. Et puis, je pense qu'actuellement, il y a aussi le phénomène des coupes. Beaucoup se disent que les jeunes lisent moins, donc ça va passer plus simplement en coupant. Et je pense que par moment, non, ça ne sert pas finalement. Je pense qu'il faut travailler avec. Beaucoup d'amour du texte, beaucoup de respect, et puis avec le parti pris d'une mise en scène.
Bien sûr.
La mise en scène de Denis Podalydès, par exemple, du Cid, est exceptionnelle. Oui, le texte est intégral et il n'y a pas une seconde de trop. Donc il n'y a pas de raison que sur Molière ce soit pareil. Bien sûr, c'est souvent mis en valeur, c'est vraiment monté souvent. Donc c'est bien de ne pas faire toujours la même chose, mais justement, chaque être, chaque metteur en scène apporte sa patte, son regard. Donc il faut se faire confiance.
Je sais que j'avais moins aimé le misanthrope du français, et puis le Tartuffe du français, alors j'avais pas aimé du tout. Je passe pour une vieille ringarde, mais tant pis. Enfin, bon,
c'était une version de
Ivo Van Hove,
oui, mais c'était une version du texte de retrouvé par Jean Forestier,
voilà,
je crois, c'est ça,
qui est décédé il y a pas longtemps.
Mais encore une fois.
Bah voilà, Madame Anne Baquet, bonjour.
C'est incroyable.
Bonjour.
Le monde est tout petit.
Non, vous pouvez vous installer.
Et ben donc je vais redire quand est-ce qu'on joue.
Oui, tout à fait.
Comment va la plus belle après ma femme? On est fort, Isabelle, extraordinaire comédienne extraordinaire qu'on aime
voir sur scène. Gérard, il y a le Baquet qui rentre pour la télévision.
Bonjour. Adbaké, qui est un très beau prénom, il faut dire les choses. N'oublions pas.
Ouais.
Alors, allez-y, ma chère.
Voilà, donc...
Pouf.
Donc, voilà. Donc rendez-vous à Avignon.
Oui, surtout.
Avec
hein.
Madeleine voilà. Béjart, une femme libre à 11h35. Ça, c'est
à la Luna.
À la Luna. Et voilà. Puis, ça sera repris à partir du 27 ah, oui. août. Du 26, je dis toujours le 27, je ne sais pas pourquoi, alors que c'est le 26. Voilà, c'est ça, alors c'est le 26 août au Lucernaire.
Voilà,
du 26 août au 1er novembre.
Ah, d'accord.
À 19h.
C'est bien 19h.
Ah, ouais, c'est bien.
Jusqu'au mois de novembre.
Ça,
donc
ça va me permettre de rencontrer les classes si elles viennent en masse au Lucernaire. Je pourrais vite me déshabiller, aller rencontrer les élèves et leur parler de.
Et ça
Molière,
sera quelle
et surtout
salle
Madeleine.
Vous savez quelle salle
La salle Paradis pour Madeleine.
Ah, la Paradis après Madame Baquet.
Et oui.
Bah voilà.
Pile poil, j'enchaîne, mais c'est beau ça.
Ben oui.
Ouais. J'adore cette salle.
Il faut voir Isabelle Andrani sur scène. Elle est extraordinaire dans tout ce qu'elle fait.
Oui, c'est vrai.
Dans tout ce qu'elle fait, il faut la voir.
Par malheur, elle n'est pas mauvaise. C'est ça qui est embêtant.
Mais c'est chouette d'enchaîner après Anne. Oui. Cette salle Paradis, elle est formidable. Franchement,
moi j'ai un peu de mal à monter.
Oui, mais une fois qu'on est là-haut, on est bien
installé. Elle est climatisée,
on voit bien de partout.
Oui.
Et puis elle a la même largeur d'ouverture que la scène 1 de la Luna. Donc moi je suis vraiment terrain conquis.
Voilà.
Ouais, je retrouve exactement ma mise en scène et puis quel plaisir d'enchaîner tout de suite.
Et une belle torche sous plafond.
Ouais.
Voilà.
On va pouvoir faire les éclairages magiques de Didier Brun. Voilà, Xavier va s'éclater à refaire sa mise en scène à la salle Paradis. Voilà. Mais en tout cas, rendez-vous à Avignon.
Oui.
Et où il fera plus frais.
Il paraît,
Paris, oui.
Il paraît. Il y a de l'air.
Il y a de l'air au moins à Avignon.
Je n'ai pas de souvenirs. Il y a de l'air.
Elle manque pas d'air.
Mais bon, il y a l'air conditionné.
Voilà.
Oui, c'est ça. C'est bien climatisé à la Luna.
Et alors d'ailleurs, à Avignon, il y aura notre cher William Mesguich.
Oui.
Être ou ne pas être.
Ce que j'ai vu.
On a bien, rigolé. Enfin, oui. J'ai bien aimé cette pièce parce qu'elle était aussi ce seul en scène aussi.
Exactement. Il est tellement
très touchant et puis désopilant aussi.
Désopilant et touchant de rendre hommage à ses parents de cette manière.
Oui. Et au football.
Bien sûr, et de sa vie.
Incroyable. Le foot, c'est pas mon truc, mais enfin bon, on va faire avec. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y a aussi Bollywood Boulevard qui se jouera à la Scala. Une femme à la mer aux Gémeaux.
Oh là là.
Oh, c'était beau. Ça,
magnifique.
Ça sera repris aux Gémeaux parisiens.
Exactement.
Mais là, c'est bien parce qu'elle nage dans la mer en ce moment, c'est parfait.
Là, ça va nous faire du frais.
Ça va nous faire du frais, voilà. Et puis, écoutez, y a la femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob, mais je n'ai pas noté où c'était, c'est pas grave. En tous les cas, en ce moment, au Studio Héberto, puisqu'on va enchaîner avec Anne Baquet et la musique, au Studio Héberto, Marie-Sylvia Manuel et Marc Golfeder jouent entre copains d'abord les samedis et dimanches de juillet, samedi 16h et dimanche 14h30, tout le mois de juillet, voilà. Et c'est aussi un entre copains d'abord.
Ça promet.
Oui.
C'est festival.
Brassens et De Vos. Voilà. On peut peut-être enchaîner avec une petite Anne Baquet. Qu'est-ce qu'on va choisir alors ?
Qu'est-ce que vous avez en boutique ?
Qu'est-ce que vous avez en magasin ?
Je vais gronder.
Vous avez genre la baignoire ? Ça va rafraîchir.
Les glaçons ou un truc comme ça, vous ne connaissez pas le Kickgarten.
Alors, glaçons, non, mais par contre, baignoire, si vous avez une baignoire, ça marche.
Ça serait bien la
baignoire.
Je sais pas. Je ne sais pas si vous avez. Qu'est-ce que vous avez ?
Je ne sais pas si on l'avait enregistré.
Ah non, on ne l'a pas enregistré.
Ah bah voilà. Ah, je te jure.
Alors, il faut venir au Lucernaire.
Voilà. Ah bah voilà. De toute façon, il faut venir au Lucernaire.
De toute façon, il faut y aller au Lucernaire.
Il y a les prunes, vous pouvez mettre les prunes, vous pouvez mettre.
Saram.
Ah oui, j'ai un truc qui s'appelle Saram aussi, c'est pas enregistré.
Parce que vous avez un disque, c'est ça ? Vous avez ?
Ah non, j'ai rien. Moi, il faut que j'aille chercher sur.
Sur Internet ?
Sur YouTube.
C'est YouTube. Voilà.
Ah bah YouTube.
Alors, parce qu'il y a les disques. Pas sûr.
Ah oui, il y a Dans ma baignoire. Mais
vous pouvez prendre un truc de Marie-Paul Bell, c'est joli.
Non, mais je ne sais pas s'il est sur
Internet. Si, vous l'avez.
Jardin secret.
Non, pas Jardin secret, l'autre là.
Non, on l'a pas.
Il n'est pas sur la Ah bah oui, beaucoup. Bon, vous pouvez rester, tu peux rester comme tu veux.
D'accord.
Ok, merci Isabelle.
Mais
c'était un plaisir de vous recevoir, de discuter avec vous. Vous êtes une femme aussi cultivée, et non pas une précieuse ridicule, même pas.
Comme elle dit, c'est gentil. En tout cas, rendez-vous au Lucernaire hein, pour pour venir vous applaudir, genre, venir t'applaudir, Anne.
Ah oui.
À partir de... ça a commencé.
Ça a commencé, c'est jusqu'au mois d'août, Madame Elbaki.
24 août. Voilà.
24
août. Et ensuite, c'est Madame qui.
Isabelle fait partie de ces artistes qui montrent ce qu'ils aiment. Avec quand même un mari qui est... Enfin, il faut peut-être pas dire à la radio, je ne sais pas.
Oh là là.
Mais donc c'est une équipe de deux et ils font ce qu'ils aiment tout simplement.
Avec son mari,
et dans ce métier, faire ce qu'on aime, c'est extraordinaire. Ouais. Et ça se sent quand on est sur scène parce que leur spectacle déborde d'amour, d'intelligence, de qualité. Et ça, vous faites une belle équipe tous les deux.
Voilà. Vous en savez quelque chose.
Bravo à vous.
Travailler en famille, mais surtout, en plus, Xavier Le Maire a beaucoup, dans son équipe, des gens avec qui travaille depuis Didier Brun à la lumière,
très
Caroline
fidèle.
Mexme.
Très fidèle dans son équipe.
Voilà. Et Christine Villers qui a fait le costume, qui est sublime.
Ah oui, oui, c'est vrai.
Donc il y a Frank Wedding à la régie, il y a d'autres. J'ai oublié quelqu'un, non,
je pense pas.
En tout cas, il y a toute une équipe, mais c'est vrai qu'il aime bien travailler avec son équipe rapprochée.
C'est normal. Qu'est-ce qu'il a raison.
Bien agréable d'avancer ensemble. On sait, on va à la fois plus vite et on va plus loin, puisqu'il n'y a pas la barrière de la découverte. Donc, du coup, on va chercher d'autres coins. C'est tout le plaisir.
Et tu commences quand au Paradis ?
Paradis, c'est 26 août.
Août.
Ah, donc c'est juste après nous, alors ?
C'est un mercredi, le 26 août, c'est
plus le dimanche.
24, 25,
oui,
26.
Oui,
ça peut être le 27. Donc je me suis trompée parce que je ne sais jamais si. Parce que avec la
25, 26, donc ça sera le mercredi 27.
Voilà.
Et tu as 19h, c'est ça.
Oui, mais pas le 26 août.
Voilà. Le 26 août, c'est un mercredi, oui.
Et Anne, tu es à 19h ?
Ah, oui. Genre, je finis le 23 alors.
Elle ne finit plus. Je pense que Anne Baquet va être sur la même scène que Madeleine.
Comme ça, on révise nos dates.
Je commence le mercredi 26. Pas possible.
Bon. Mercredi 26.
Non, attendez, si, monsieur, attendez.
C'est fou, ça. Mais c'est comme on finit le 27 à Avignon, ça m'a perturbée, vous voyez.
Nous, on joue jusqu'au 23.
Jusqu'au
dimanche 23. Donc tu commences le 26.
Voilà,
le mercredi 26.
Bon, le 26 août.
Il faut faire le ménage un petit peu avant quand même, pour qu'il y ait de la place quand même. C'est pas autrement, c'est pas bien.
Et puis le temps de monter les projos, tout ça.
Bah oui, quand même.
On enlèvera notre parachute.
Ah. Oui, j'espère bien.
Parachute.
Un parachute.
Ça rentre dans un sac.
On papote. Hein, alors, voilà, est-ce qu'il a trouvé quelque chose ?
Non, mais ce qu'on va faire, tout simplement, pour séparer, comme dans le dictionnaire, séparer les noms propres des noms communs, il y a les pages roses. Ben nous, il y a, comme à chaque fois, notre page blanche proposée par Jean-Marie.
Voilà.
Sous les ifs noirs qui les abritent, les hiboux se tiennent rangés, ainsi que les dieux étrangers, dardant leur œil rouge. Ils méditent, sans remuer, ils se tiendront jusqu'à l'heure mélancolique où le soleil oblique, les ténèbres s'établiront. Leur attitude aux sages enseigne dans ce monde qu'ils craignent le tumulte et le mouvement. L'homme, ivre du nombre qui passe, porte le châtiment d'avoir voulu, changer. le châtiment d'avoir voulu changer de place.
Car le mot, qu'on le sache, est un être vivant. La main du songeur vibre et tremble en l'écrivant. La plume, qui d'une aile allongeait l'envergure, frémit sur le papier quand sort cette ligne. Le mot, le terme, type, on ne sait d'où venu, face de l'invisible, aspect de l'inconnu. Créé par qui ? Forgé par qui ? Jaillit de l'ombre, montant et descendant, dans notre tête sombre, trouvant toujours le sens comme l'eau le niveau, formule des lueurs flottantes du cerveau. Oui, vous tous comprenez que les mots sont des choses et roulent pêle-mêle au profit obscur des poses, où font gronder le ver, orageuse forêt. Du sphinx exprima, le mot c'est le secret. Le mot veut, ne veut pas, accourt, fait ou bacchante, s'offre, se donne ou fuit. Devant Nero qui chante, ou Charles IX qui rime, il recule, hagard. Tel mot est un sourire, et tel autre un regard. De quelques mots profonds, tout homme est le disciple. Toute force est ici-bas. A le mot pour multiple, moulé sur le cerveau, vif ou lent, grave ou bref. Le creux du crâne humain lui donne son relief. La vieille empreinte y reste auprès de la nouvelle. Ce qu'un mot ne sait pas, un autre le révèle. Les mots heurtent le front, comme l'eau le récif. Ils fourmillent, ouvrant dans notre esprit pensif des griffes ou des mains, et quelques-uns des ailes, comme en un âtre noir, air des étincelles, rêveur, triste, joyeux, amer, sinistre, doux, sombre peuple. Les mots vont et viennent en nous. Les mots sont les passants mystérieux de l'âme.
Et voilà, c'était le petit cadeau d'Evelyne et Jean-Marie. Dans une demi-heure sur Radio Libertaire, ça sera Bulle Noire, magazine du Polar, avec deux invités, il me semble. Et là, ben oui, on retrouve les deux ânes du théâtre.
Les deux ânes, voilà, il y a le théâtre des deux ânes, c'est sûr. Merci Anne Baquet. Et merci à monsieur, excusez-moi, j'ai oublié votre nom.
Moi, je ne suis pas là normalement, Gérard Robert.
Gérard Robert, le metteur en scène.
Je suis l'accompagnateur
de madame.
Et le metteur en scène du spectacle.
Le garde du corps.
Voilà. Alors, j'avais vu au Poche Montparnasse le dernier, un de vos derniers spectacles. Et c'est vrai qu'au Paradis, j'y suis pas allée. Là, je suis une grosse vilaine. Mais Evelyne m'a dit, écoute, reçois Anne Baquet. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Elle est déjà venue, elle est sympa, elle peut venir, il n'y a pas de souci. Donc, on va parler de votre escale au Paradis, on va dire.
Bah oui, bah Evelyne est venue. Elle est venue, oui, on s'est croisés, on a parlé. Voilà, oui. Elle m'a dit... que vous seriez là pour m'accueillir.
Voilà.
À la radio. Oui. Et ben voilà. Et ben on est ravis. On a commencé depuis le 20. Je ne sais plus quelle date. Déjà, ça commence.
Une semaine.
Voilà.
Oh ben voilà.
Depuis une semaine. Et la première chose qu'il faut dire aux spectateurs, c'est que la salle est climatisée.
Oui, voilà. Ne partez pas ailleurs.
Commencez par voilà. Ça. La salle est climatisée.
Oubliez la piscine. C'est pas la peine. Elle devient chaude, l'eau. Ouais. C'est pas la peine. C'est
venez vrai. Au Paradis, vous allez voir, il fait frais.
Voilà.
Vous allez entendre 1h10 de musique.
On va bien s'amuser.
Oui, vous allez écouter des textes, vous allez voilà, partir dans notre petit voyage pendant 1h10 avec Damien Nenonchel au piano.
Oui.
Y a en des alternance lumières. Alors, ils ne sont pas vraiment... Alors, j'ai mis mon ami en alternance, mais ils ne sont pas vraiment en alternance, puisque Damien
Gwendal Giglet va remplacer Damien les deux semaines de dernière semaine de juillet.
Voilà. Ah bah voilà. Oui, bah oui.
Voilà, ce que j'en ai préféré faire plutôt des paquets que de faire en alternance, parce que c'est plus voilà, pour moi je préfère pour mon luxe personnel. et voilà, et on est très très content d'être au Lucernaire à 19h tous les soirs du mercredi au dimanche. Ah, sauf le dimanche à 15h30, voilà.
Voilà. Voilà. Ah. Et le Lucernaire, vous connaissez, c'est pas la première fois. J'ai vu ABC.
Alors, on a calculé, ça fait la septième fois que nous venons au Lucernaire sur 10 ans.
Oui.
Puisque la première fois, c'était il y a exactement 10 ans.
Oh,
c'est
bah,
un anniversaire.
Ah, oui, en effet.
Et il nous a ouvert, Benoît Lavie nous a ouvert la porte du lieu. Et voilà, et puis, quand voilà, il nous accueille. Quand on en a envie, enfin pas quand on en a envie, mais voilà, quand on a envie de proposer quelque chose, ben, on s'est dit, le Lucernaire, c'est quand même le lieu pour nous idéal.
On était venus les deux premières fois avec un récital,
oui.
Et puis ensuite on a fait abécédaire avec nos oui. camarades musiciennes, on était quatre
oui,
musiciennes
c'était très
sur
sympa
scène.
Aussi, on les avait reçus.
Donc
ici.
Un abécédaire musical qu'on avait fait deux fois au Lucernaire,
oui.
Et ensuite on a fait le spectacle Comeback,
oui.
Avec nos mêmes camarades musiciennes, quatre musiciennes sur scène, contrebassiste, piano, hautbois, cor anglais et voix. Oui. Là aussi on l'a fait deux fois parce que ça marchait très bien, on est content. Et on le tourne toujours d'ailleurs, c'est toujours en tournée. Et après cette année, on s'est dit avec Anne, mais pourquoi ne pas faire un nouveau récital. Et comme on a la chance d'avoir des auteurs, compositeurs qui écrivent pour Anne, ben on a concocté un nouveau récital, voilà, qui est très varié, qui va de chansons tendres à des chansons humoristiques, à des chansons jazzifiantes. On a la chance d'avoir des pianos qui sont de tout style. On a de très beaux arrangements pour piano. Et donc tout cela avec une nouvelle mise en scène. Et on avait proposé à Benoît, comme on savait qu'on était bloqué sur Paris cet été, de venir au Lucernaire. On lui a dit, mais comme on n'a jamais fait le Lucernaire, parce qu'il faut savoir qu'au Lucernaire, le paradis, parce qu'il faut savoir qu'au Lucernaire, il y a trois salles. Il y a
oui.
la noire, la rouge, il y a le paradis.
Voilà.
On avait fait trois fois la noire, trois fois la rouge. On s'est dit, ah, mais cette fois-ci, on ferait bien le paradis, parce qu'il y a une belle hauteur sous plafond. Et comme il y a une mise en scène particulière avec un parachute,
voilà.
On s'était dit, ben là, on aurait besoin d'une hauteur sous plafond. Et Benoît nous a dit, ben banco, vous venez. Donc on vient avec tous ces alors, les auteurs. Anne, est-ce que tu nous parlais de ces auteurs, compositeurs
Alors, c'est vrai qu'on est très 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 gâtés au niveau compositeur et auteur.
Oui.
Et puis, c'est vrai que le titre du spectacle, forcément, Chanter au paradis,
bien sûr.
Parce que nous sommes au paradis du Lucernaire, mais j'avais une chanson que j'avais jamais mise, que François Morel m'avait envoyée, qui s'appelait Chanter au paradis, avec une musique de Frédéric Fresson. Et je me suis dit, bah, c'est le moment de la sortir.
Ben voilà.
Comment est-ce possible de ne pas mettre cette chanson? Et donc, elle ouvre pratiquement le spectacle. Et on est très, très heureux de pouvoir... Damien a fait un arrangement au piano formidable dessus. Et nous partons donc dans un feu d'artifice de compositeurs, puisque bon, François Morel est présent deux fois. Nous avons toujours la chanson de Jean-Jacques Sempé, le dessinateur, qui est toujours présent, parce que j'adore toujours ses dessins, ses petits textes, légendes qu'il met dans ses livres. Ensuite, on a en musique, on a Claude Bolling, on a aussi Moustaki, qui m'avait écrit une magnifique chanson, qui a mis en musique un grand compositeur contemporain actuel qui est Thierry Esquèche. Donc, il y a eu ce mélange incroyable de Moustaki avec un compositeur de musique très renommée dans la musique classique et contemporaine. Donc voilà, j'aime bien mélanger les univers.
Et on a Marie-Paul Bell aussi.
Ah bah, Isabelle Maïro, ça c'est mes grandes camarades de jeu.
Qui nous a fait plaisir de venir il y a deux jours.
Ah, c'est sympa.
Ah, c'est toujours Marie-Paul Bell qui a fait...
Elle reprend elle aussi au passé.
Ah oui,
elle est passée, elle a avec succès, je suis allée la voir, elle était incroyable.
Oui, je l'ai vue aussi, c'était super.
Et là, elle fait des dates de tournée maintenant, mais elle est extraordinaire, Marie-Paul Bell, il faut la voir.
Ouais, Isabelle Maïro sont des femmes vraiment extra, j'aime beaucoup. En femme extra, il y a évidemment Juliette aussi, qui est toujours présente dans mon récital avec aux casseroles, aux fossés, qu'elle m'avait écrite une fois.
C'est pas mal, ça, oui.
Celle-là, je la trimballe et je la remercie vraiment d'avoir écrit, concocté ce petite chose pour ma pomme.
Il y a Paul McCartney aussi, il n'est pas encore venu.
Alors, lui, Paul McCartney n'est pas venu, mais c'était là, pour le coup, c'est une reprise personnelle,
oui.
Mais une reprise. C'est une grande chanteuse américano-arménienne qui s'appelait Cathy Berberian, que beaucoup de chanteurs connaissent,
c'est vrai,
qui était la femme de... C'est Berio, c'est ça. Et qui a fait beaucoup de créations de Berlioz, d'ailleurs, Tripsodie, tout ça, toutes ces œuvres incroyables. Et elle a enregistré...
Elle était soprano
Elle était mezzo.
Elle était mezzo, oui.
Elle était mezzo et elle avait un tempérament, et d'ailleurs, quand on voit ses disques et tout ça, était incroyable. Mmh. Et elle avait enregistré, justement, ce Ticket to Ride, que j'ai repris modestement. Voilà.
Très bien. Et Remords de vieille dame, je ne me souviens pas, c'était pas aux poches, ça.
Si, elle était aux poches. Alors, ça, c'est Franck Thomas. Pour ceux qui ne connaissent pas Franck Thomas, ils le connaissent forcément. Franck Thomas est un auteur qui a écrit quand même les plus belles chansons de Michel Jonas. On peut le dire. Dites-lui, entre autres. Hein, c'est ça. Dites-moi. Il a écrit un nombre de chansons. Alors, au niveau de la variété française des années 70-80. Et il m'a écrit énormément de textes. Que Reinhard Wagner, qui a beaucoup travaillé avec lui, a mis en musique. Et Remords de vieille dame est un texte un peu en dehors de ce qu'il fait d'habitude, mais j'ai beaucoup aimé cette histoire de cette femme. Je trouve que la mélodie, Reinhard a fait un truc super, et puis je ne sais plus, je crois que c'est Jérôme Charles qui a fait un arrangement piano.
Excuse-moi. Non. C'est François Robert.
Ah pardon, François Robert qui a fait, excuse-moi. François Robert qui a fait un piano extraordinaire.
Oui.
Sur ce piano, voilà, a fait un arrangement sur cette œuvre. Et puis j'ai un Prévert aussi, parce que j'ai une affection pour ce cher Jacques.
Il y a l'air de Juliette.
Alors après, j'ai trois airs classiques, parce que forcément, je viens un peu de ce milieu-là.
Bien sûr, oui.
Donc j'ai un air russe, de Rachmaninov, l'extrait d'un... Il n'a pas écrit beaucoup d'opéra, mais à l'écho, on fait partie. C'est l'air de Zemphyr, que j'adore. Il y a l'air de Roméo et Juliette, que je massacre allègrement. Je m'en excuse à l'avance pour mes collègues chanteurs.
C'est un bel opéra, d'ailleurs. J'aime beaucoup.
Oui, moi j'aime bien aussi. Il y a plein d'air formidable dedans.
Donc que tu le massacres volontairement.
Oui.
Je précise quand même.
Mais bon. Et puis Isabelle Aboulker, qui est une compositrice aussi, qui fait partie des compositeurs contemporains, parce qu'ils sont encore en vie, comme on dit, mais qui font de la musique, qui sont de formation classique, évidemment, qui a écrit énormément de spectacles pour enfants, pour des airs de mélodies incroyables, qui sont beaucoup chantés d'ailleurs. Maintenant, ils commencent à être vraiment chantés en France par les chanteuses, mais que ce soit au Japon, aux États-Unis, c'est incroyable ce qu'elle est chantée. Et c'est un air qu'elle a écrit pour cette grande chanteuse Patricia Petitbon, qui s'appelle Je t'aime, et que j'ai aussi, avec l'autorisation de la compositrice, je me suis accaparée personnellement. Voilà, j'ai fait une interprétation personnelle de cette œuvre. Voilà. Bien. Et j'adore.
Alors, qu'est-ce que vous allez nous chanter là en live, comme dirait Evelyne ?
Alors, qu'est-ce que je vais vous chanter en live ? Qu'est-ce que je pourrais chanter ?
Une chanson douce.
Faudrait quelque chose.
Faut pas vous casser la voix. J'ose pas prononcer ce titre, casser la voix, parce que c'est pas le moment.
Ah non, je crois pas.
Ça, tu peux faire un peu ça.
C'est-à-dire qu'il fait assez chaud, donc je suis un peu en dégoulinage. Qu'est-ce que je pourrais chanter ?
Moi, je peux pas chanter à la place parce que ça va être terrible.
C'est pas évident là comme ça.
C'est pas pour dire. Mais est-ce que je suis bien quand tu es toute nue, sans rien de rien, les pieds à la hauteur des mains, dans ma baignoire, avec ce corps que vous voyez, avec ce corps que vous devinez, faut voir comment je me laisse aller dans ma baignoire, et je m'étire dans la mousse et le jasmin. Et je me pelotonne en douce et je suis bien. D'accord, c'est une baignoire sabot, modèle enfant percé dans le dos. Mais quelle joie de dire allô dans ma baignoire. Je fais la planche à angle droit et le coup du serpent chinois. C'est très spécial, mais moi j'aime ça dans ma baignoire. Des fois, du haut de mon escabeau, je prends mon élan je ne sais plus quoi, mais ça fait plouf, c'est rigolo dans ma baignoire. Et je m'étire dans la mousse et le jasmin. Et je me pelotonne en douce et je suis bien. Et quand je suis bien disposée, oh alors là, si vous saviez,
mais passez donc un jour me voir dans ma baignoire.
Bravo. Puis une baignoire au théâtre, c'est normal aussi. Hein.
Oui, puis au moins ça rafraîchit.
Ça rafraîchit, c'est bien. Avec des glaçons. C'est
complètement.
Super.
Ah oui, oui, baignoire avec glaçons.
Ah oui. Hein.
Oh, pas mal.
Et oui.
Voilà, voilà. Voilà donc, pour cette petite histoire jusqu'au 23 août.
Oui, parce qu'après. Oui. Voilà, après y a Madeleine Béjart.
Voilà, il y a Madeleine Béjart qui arrive qui après. Arrive. Et puis, bah voilà, on vous accueille chaleureusement. Et, pour ceux qui ne connaissent pas le Lucernaire, c'est quand même un lieu à part entière.
Ah oui, il est là une âme, ce
oui,
ce
parce qu'il y a quand même il y a trois cinémas, quand même.
Oui.
Alors, chose incroyable, c'est qu'en ce moment, il y a le film Microbes et Gasoil de Michel Gondry qui passe au cinéma. Il y avait une représentation, je crois que c'était hier.
Oui.
Et mon neveu, Théophile Baquet, est dans le film. Alors, c'est incroyable.
C'est un des deux jeunes.
Un des deux jeunes, il fait Microbes. Oui. Et voilà. Et Théophile, donc, est au Lucernaire aussi, indirectement. Bien. Et puis, il y a un restaurant, il y a un bar, il y a une librairie fantastique avec Céline.
Ils ont fait pas mal de travaux, d'ailleurs.
Oui,
très réussi.
Il y a l'air conditionné, on mange bien.
Oui, c'est sympa.
Pour ceux qui aiment les légumes, attention, il y a beaucoup de légumes, oui, beaucoup de plats un peu végé, tout ça. Et puis un peu de poulet. Moi, j'ai mangé un très bon tataki de bœuf.
Ah bon, bon à savoir, alors.
Oui, oui, oui. Non, non, et puis l'équipe est formidable. Non, non, vraiment. Très sympa. Allez-y.
D'accord.
Même si ce n'est pas pour moi.
Ici, il faut aller voir donc Anne Baquet au Lucernaire. Il y a pas mal de. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Qu'est-ce que je vais repérer au. À Avignon, alors il y avait. Est-ce que vous connaissez les générations barbeurs?
Ah, les barbershops.
La barbershop.
Oui, bien sûr.
On
avait fait un Avignon avec eux.
Ils sont formidables. Ils refont un Avignon à l'arrache-cœur.
Très bien.
Voilà, très très bien.
C'est très sympa ça. Oui.
Il y a Nouba aussi. Ce sont les Divalala.
Oui, bien sûr.
Les Divalala, oui, bien sûr.
Au Germaux, à Avignon.
Oui.
Absolument.
Voilà.
Et, allez voir.
Ah bah oui, allez voir aussi. Être ou ne pas être, c'est au Corsin. Une femme à la mer, c'est au Gémeaux-Avignon. Oui, ben, Génération Barbeur. Je pense qu'il y a d'autres spectacles musicaux.
Oui, je pense qu'il y en a
Avignon.
Pas mal. Enfin, maintenant, oui. C'est vrai qu'il y a une. Depuis plusieurs années, c'est vrai que quand moi j'ai commencé à faire Avignon, c'était pas encore le pic. Il y avait pas, c'était quand même. C'est un lieu de théâtre.
Oui.
Donc c'est vrai que la musique est venue un petit peu plus tard, puisque maintenant, de toute façon, il y a du cirque.
Il y a du clown,
il y a même le classique commence un petit peu, même quelques concerts qui s'organisent.
Ah bon, peut-être, oui.
Mais très peu encore, mais c'est vrai qu'il y a quand même il y a du baroque aussi qui vient commencer à s'implanter. Enfin voilà, tous les arts sont présents.
Oui.
Et dans le cirque, on a un festival, mais alors c'est en Écosse, mais qui est très beau aussi au mois d'août.
Ah oui, il y a le Fringe à Londres, à Édimbourg. C'est le grand festival
extraordinaire.
Le Fringe d'Édimbourg qu'il faut aller. Si on parle des festivals, en général, au juillet c'est Avignon et en août on a le Fringe à Édimbourg. Alors venez avec les bottes en caoutchouc et le ciré. Mais alors c'est super sympa.
Alors dites-vous qu'Avignon on a quoi 1300 spectacles actuellement.
1600.
Oui, là il y en a 3500.
Il y en a 3500 là-bas. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, déjà l'ambiance est extraordinaire. Et ce qui est merveilleux dans ce festival, c'est que c'est l'amour vraiment de l'art vivant. Personne n'essaye de faire de l'argent sur le dos des autres. Et c'est une ambiance extraordinaire. Les compagnies
les
sont extraordinaires.
Sont un petit peu moins
cher, c'est international, les places sont nettement moins chères. C'est tout. C'est vraiment un spectacle, un festival international. Vous avez beaucoup de cirque, beaucoup de spectacles musicaux, beaucoup de théâtre. Vous avez même des festivals de musique militaire. Et le lieu, le cadre est extraordinaire, forcément.
Oui,
forcément,
le cadre est
extraordinaire.
C'est la ville de Harry Potter.
C'est un peu loin, mais si on peut, allez-y.
Refaites votre passeport parce qu'il faut un passeport.
Ah, pour les passes
extraordinaire.
Aussi. Mais l'avion, c'est pas loin. On arrive et puis l'aéroport, c'est très bien. On arrive, il y a le petit train qui te dépose carrément dans le centre-ville. C'est hyper bien fait. Voilà.
D'accord.
Donc juillet, Avignon.
Avignon, ou alors on va
août,
dire.
Août, Fringe.
Voilà.
Et puis, au juillet, il y a aussi Grignan, il y a Sarlat.
Ah oui, alors, ces festivals.
On commence tous les festivals.
Ah bah oui,
Corégie d'Orange.
Ah oui, mais alors ça, c'est très particulier. Il y a le festival d'Aix aussi. Après, c'est des festivals qui sont très spécifiques.
Oui.
Là, je parle de l'art vivant est entièrement.
Sarlat, on avait fait comeback l'année dernière avec Jean-Paul Tribou qui fait un boulot extraordinaire au festival de Sarlat.
Oui,
extraordinaire.
Ah oui, Sarlat, c'est super. Incroyable. Et puis à Barjac aussi.
Eh ben oui.
Bah, parce que je pense que vous êtes allé plusieurs fois à Barjac, je suppose.
Non.
Ah, ah ben Barjac, c'est extraordinaire. Non, mais on a la chance en France d'avoir de merveilleux festivals.
Oui, bien sûr.
Ah non, où on se trouve, il y a toujours quelque chose.
Oui. Mmh.
Toujours quelque chose.
Tout à fait.
Alors, formidable. C'est vrai que les... Vous n'avez pas fait les corrigés d'orange, mais...
Non, parce que j'ai un statut un peu particulier. Donc, j'ai un statut qui est hors statut, puisque je ne fais pas partie d'une famille spécialement. Je fais pas part, parce qu'il y a des familles dans le milieu classique, dans le milieu variété, dans le milieu tout ça.
Oui.
Mais je dois dire que la chanson française, le milieu de la, comme le festival de Barjac m'a accueilli incroyable. J'ai fait plusieurs fois le festival qui est un musique de chansons françaises. Voilà, moi je suis un peu mélangée, mais ils m'ont accueilli vraiment vraiment bien.
Bah, la famille Baquet quand même, elle est réputée avec.
Oui, alors je suis presque plus accueillie dans le milieu du théâtre aussi.
Oui, bien
parce
sûr.
Que le Lucernaire est un lieu de théâtre au départ. Mmh. Le Poche est un lieu de théâtre.
Oui.
Et c'est vrai que le milieu musical est
plus fermé.
Et pas plus fermé, mais je pense que je fais un peu moins partie de ce monde-là, parce que c'est mon choix, c'est le choix de mon répertoire aussi qui fait ça,
oui.
De ma voix, de... voilà, c'est non, comme ça, que, hein, oui. J'ai pas cherché non plus à...
Et en même temps, les compositeurs classiques aime écrire pour toi.
Oui, ça n'empêche pas que j'ai fait partie du milieu classique, puisque j'ai travaillé à l'Opéra d'Avignon, j'ai travaillé à l'Opéra dans différents opérés, dans des productions, j'ai fait des productions, hein, il y a un petit moment maintenant. Mais c'est vrai que maintenant, je me suis plutôt spécialisée dans les spectacles un peu plus intimes, personnels. Voilà.
Parce que je vous verrais bien au Corégie, parce que bon, ils vont accueillir Philippe Catherine cette année.
Ah bah voilà, parce qu'ils font Ah bah parce que
il change un petit peu
parce que les Corégies, il y a un peu, ça se mélange.
Oui.
Je pense qu'ils mélangent le classique avec maintenant.
Ils ont peut-être du mal à trouver. Ils nous mettent tout le temps la Traviata que j'aime bien, mais enfin bon, c'est toujours.
Ils essaient d'ouvrir le champ d'action, donc j'ai peut-être toutes mes chances.
Exactement, exactement, Anne.
Non,
formidable. En tout cas, merci beaucoup de nous accueillir toujours à Radio Libertaire.
Ah, merci pour votre fidélité.
Oh, bah, quand même,
on est ravis de venir toujours. En plus, on habite à côté, donc ça nous rend bien service.
Voilà.
On n'a pas besoin de prendre le métro.
Et cette radio existe depuis combien de temps maintenant? Dites-moi.
Nicolas.
La première version est née en 81.
Enfin, 80, 81.
Ah, bah oui, bon,
logique. 81, extraordinaire.
Radio Libre.
Ah oui.
Et bien, longue vie à Radio Libertaire.
Merci bien.
Ah oui.
Et puis, j'irai vous
45 voir, ans.
J'irai monter.
Vous pouvez monter. Tout. Alors, voilà, petite chose, c'est que ce qui est quand même bien fait, c'est que c'est vrai qu'il y a 4 étages pour monter au paradis.
Ouais.
Sauf qu'il y a 2 paliers. Vous pouvez monter au premier palier. Il y a des petits sièges, on peut éventuellement s'asseoir pour les personnes qui doivent prendre le repos. Mmh. Un deuxième palier avant de passer au troisième, où là aussi, vous pouvez faire une halte tranquillement. Et quand vous arrivez là-haut, il y a une petite terre comme ça qui...
Oh là là.
Franchement, on les monte facilement. On les monte facilement, il n'y a pas de problème.
Il faut prendre le temps.
Non.
J'ai ma mère qui est venue.
Hein. Voilà.
On n'avait pas d'excuse, ma mère est venue.
Qui a actuellement des petits problèmes de locomotion.
Pareil.
Et elle a fait les 4 étages sans problème.
Donc il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps.
Voilà.
Et c'est bien agréable. Bon. Merci d'être venu.
Merci pour votre accueil.
Anne, merci Nicolas. Et puis amusez-vous bien cet été.
Vous êtes ouvert tout l'été?
Oui, il me semble bien. Oui.
Toujours fidèle au poste?
Eh oui.
C'est bien. Voilà. Vive la musique et vive...
La prochaine fois, on viendra avec un disque d'Anne.
Ah bah oui,
j'ai complètement oublié.
On vous le laissera même.
Oui.
Il n'y a pas de flyer non plus, je parie.
Si, j'en ai quelques-uns.
Ah bah il faut les mettre là-bas alors.
Bon.
Je vais les mettre.
Voilà. Un petit
dans la mesure où Eric Nadeau, l'ami Eric Nadeau, a pensé à mettre sur YouTube quand même un extrait du spectacle, Anne Baquet au paradis. Très bien.
Bon, je crois qu'on va faire un filage technique avec les lumières pour voir si tout est en règle, si le chef est content.
Toi, tu y pensais là?
Oui, non, mais pour les... Bon. Le piano, comme il y a des petites perles.
Prenez un spectacle d'1h15, prenez du temps de préparation dans les loges et tassez ça en 1 minute 39, et ça donne ce qu'on vient d'entendre pour avoir une petite idée. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Allez, un petit retour sur une chanson du passé, une chanson de Jacques Grélot qui est pleinement de circonstances, que Georges Brassens avait interprétée ici dans la version de Marc et André. Ah, il y a eu Béart aussi.
Quand le soleil s'est levé là-bas derrière Pantin, ça n'a été qu'un cri dans le petit matin. Il fait beau, les oiseaux de Paris filochant ventre à ciel, aux quatre coins de la ville ont porté la nouvelle. Il fait beau, de la Muette à Pigalle on se le répétait, une bonne nouvelle vraie, ça vaut le coup d'en parler. Il fait beau, et tout Paris bientôt fredonne obstinément ce refrain de trois mots monotone et charmant. Il fait beau, tout le monde est content. Puis le soleil joyeux montant un peu plus haut, en fin de matinée, il y a quelque chose de nouveau. Il fait chaud, ça s'aggrave d'heure en heure, bientôt nous étouffons.
On a un petit peu d'air quand il passe un avion.
Il fait chaud,
sur la chaussée brûlante des touristes en moiteur
cherchent leur route à l'ombre des jeunes flics en sueur. Il fait chaud, partout les bistrots préparent les grands verres.
On a beau être content, on se fait monter de la bière.
Il fait chaud, tra-la-la-la-la.
Les femmes sont adorables.
Comment peuvent-elles ranger dans si peu de tissus tant de choses douces au toucher.
Il fait chaud.
Elles sont vraiment jolies, si j'en trouve une qui me veut, je m'en vais gâcher ma vie pour elles, une heure ou deux.
Il fait chaud, j'en voudrais une bien fraîche, dans une pièce bien sombre.
Ce qu'on aime dans le soleil, c'est qu'on peut se mettre à l'ombre. Il fait chaud, l'amour on aime bien ça, c'est un sport idéal, le seul qui n'exige pas un équipement spécial. Il fait chaud, nous embêtons pas.
Des descentes avant l'heure sont horribles bureaux.
Monsieur Dupont chez lui rentrait bien trop tôt. Il fait beau, il a trouvé sa femme seule avec un monsieur.
À part le drap du dessus, il n'avait rien sur eux.
Il fait chaud,
Dupont restait sans voix, sa femme ne disait rien.
Alors l'autre type a dit, il y a comme ça qu'on est bien. Il fait chaud.
Vous croyez, dit Dupont ?
Je puis vous l'affirmer.
Dupont s'est dévêtu et tout s'est arrangé.
Il fait chaud, on peut pas se fâcher. Puis enfin, c'est le soir, assis dans leur maison, les concierges déclarent avec satisfaction.
Il fait bon.
Dans le ciel assombri, les hirondelles font en poussant des petits cris
une partie de ce moucheron.
Il fait bon.
Et le soleil pressé disparaît vers Saint-Cloud.
On a le tour du monde à faire, faut qu'il en mette un coup.
Il fait doux,
il n'a pas temps à perdre, s'il veut être venu demain, on compte sur lui de bonheur, là-bas derrière Pantin. Il fera beau, ça nous plaira.
Et voilà, Marc Chevalier, André Schlesser, sur un album qui était, je crois, un album de chansons de théâtre. Et cette chanson de Jacques Grélot a été également interprétée, et quand je dis interprétée, c'est que vous imaginez ce que ça pouvait donner sur scène par les frères Jacques.
Grand quatuor, oui, de grands chanteurs.
Alors, comme on le disait, Anne, l'émission continuera cet été, effectivement. Il y aura encore... les dates du théâtre sont fixées?
Non, pas tout à fait encore, non, non. Pas tout à fait. Mais je pense que Evelyne aura de quoi dire quand elle reviendra du Festival d'Avignon, Elle aura pas mal de choses, de belles pépites à raconter. Moi, je vais voir un petit peu aussi ce qui se donne, parce que bon, le théâtre, ça se joue aussi encore à Paris. Pas trop, mais bon. Voilà. Eh bien, merci en tout cas à Nicolas. Merci à moi. Et puis à bientôt. Et prenez soin de vous tous. Hein.
Effectivement. Et sur les prochaines dates pendant le mois de juillet, on aura effectivement une programmation musique et ou poésie proposée par Laurent. On aura Ariel qui viendra avec Joël et Elsa pour nous livrer des textes. J'espère qu'on aura aussi le retour de Sophie et de Michel. Et puis effectivement, programmation théâtre, tout ça à découvrir. Et d'ailleurs, Bulle Noire restera ouvert aussi pendant l'été. Et ce qu'il y a de bien, souvenez-vous, il y a de cela 3 semaines, je crois, dans Bulle Noire, Bob de Terre, enfin, on va l'appeler Stéphane, hein, recevait Jean-Marc Royon qui évoquait « J'ai un bouquin, Le Moineau de la Bastille, qui était sorti il y a 2-3 ans, je ne sais plus exactement, faudrait que je te l'envoie, faudrait que tu le lises. » Et puis Stéphane a dit « Oui, faudra qu'on fasse une émission. » Ben, vous allez découvrir que dès aujourd'hui, Jean-Marc Royon sera dans nos studios. En fait, je peux même vous le dire, lui, il est en avance, il est dans nos studios. Et dans le cadre de Bulle Noire, cette semaine, également Catherine Dufour pour Fantômes et Giboulées, paru en collection La Bête Noire chez Robert Laffont. Mais pour tout ça, il faut quand même qu'arrive également dans nos studios l'animateur de Bulle Noire, parce que vous avez bien capté, il n'est pas encore des 17h sur l'antenne de Radio Libertaire, il est 16h59, donc je vous rappelle, Radio Libertaire vit principalement grâce au soutien financier de ses auditeurs et de ses auditrices, et pour nous soutenir, une seule adresse, le 145 rue Amelot, la librairie du Monde Libertaire, métro Oberkampf, République, Fille du Calvaire et Louise Michel, pour ceux qui sont prêts à marcher sous la canicule.
T'as bien capté Bulle Noire, sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar, sur Libertaire, Radio Libertaire.
De 17h à 19h,
baby,
ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Radio Libertaire.
T'as bien capté Bulle Noire, sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar, sur Libertaire, Radio Libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4h,
baby.
Faut pas te tromper, les flingues vont sortir des holsters.
Bien capté Bulle Noire, sur Libertaire,
Radio Libertaire.
On va parler de polar, sur Libertaire, Radio Libertaire.
On parle de 38, de calibre 44,
baby.
Mais bien sûr tu es sur 89.4.
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire.
Radio Libertaire. Radio Libertaire sur 89.4.
Bonjour à tous, amis de Bulle Noire, de Libertaire 89.4. Nous sommes avec Catherine Dufour dans les éditions Robert Laffont. Ont eu la bonne idée de publier son dernier roman, Fantôme et Giboulé. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Et puis le retour de Jean-Marc Royon. On t'a vu il y a moins d'un mois.
Oui.
Et finalement, on avait parlé du moineau de la Bastille,
ouais.
De ce qui était finalement la genèse de, d'un prochain roman.
Ouais, le préquel.
Voilà, et on s'était dit, bon, il va falloir que tu viennes nous en parler. Ça c'est aux éditions Esquif, hein, si je ne me trompe. Fantôme et Giboulé, donc, c'est un roman un petit peu atypique par rapport à ce qu'on connaît de Catherine Dufour.
Non, j'ai toujours fait dans l'atypique. Moi, j'ai commencé par faire de la fantasy parce que Terry Pratchett m'avait fait beaucoup rire. Après, on m'a dit, ah bah oui, mais alors, c'est pas très sérieux. Donc, comme j'étais vexée, j'ai fait un livre de science-fiction très sérieux. Donc là, j'ai commencé dans la science-fiction. Et après, je suis passée à la littérature générale. J'ai fait des essais, et notamment chez Fayard, à l'époque où Fayard était une boîte fréquentable. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai refait de la science-fiction, j'ai fait du fantastique, j'ai fait du thriller. Et j'ai commencé dans le polar en 2020, avec le bal, Au bal des absents. Et c'était dans la collection Cadre noir du Seuil. Et puis ben là, je reprends ce personnage, hein, mon enquêtrice, qui est mon personnage fétiche, que j'avais déjà mis dans des nouvelles avant. Dans une nouvelle qui s'appelle L'Immaculée Conception, qui a dû avoir le Grand Prix de l'Imaginaire en 2008. C'était déjà ce personnage que j'aime beaucoup, qui s'appelle Camille. Et bah là, je suis passée de chez La Bête Noire, la collection de Robert Laffont. Oui, c'est vrai, en fait. C'est un peu chaotique, mon parcours, maintenant que je le raconte.
Bon, pas tant que ça, parce qu'il y a une ligne directrice.